Alors d'abord, je suis heureuse de vous accueillir. Merci. Vous êtes au Musée des Beaux-Arts. Il ne faut pas oublier que ce musée a été une villa. Elle est construite en 1878 pour une princesse russe qui l'a fait construire, achète le terrain des Beaumettes. À cette époque-là, la colonie russe était très importante. Nice, attirée par la douceur de son climat, toute la Côte d'Azur d'ailleurs attirée, mais et beaucoup de Russes, beaucoup d'Anglais venaient. Certains vivaient en hôtel, d'autres ont eu les moyens de faire construire des villas. Et ici, j'aime bien parler parce qu'on a une très belle lumière grâce à cette verrière. Donc ici, tout est monumental, la hauteur des plafonds, la taille des pièces, et la lumière est très belle ici. C'est pour ça qu'on en a fait d'ailleurs, vous voyez, un petit comptoir de vente avec tous les livres que l'on a à la disposition. Donc ça, quand elle vend la maison, la princesse russe, elle la vend à un très riche Américain. Et dans les journaux de l'époque, c'est-à-dire vers 1888-90, on parle beaucoup de la villa Thompson. Elle est plus connue sous le nom de Villa Thompson que de Villa Kotchoubé, qui est le nom de cette princesse russe. Monsieur Thompson reçoit beaucoup, des grandes fêtes, des grands bals, enfin, c'est un lieu mondain. Il va mourir dans cette maison en 98, et après elle va avoir, plusieurs propriétaires qui vont un peu la négliger. Et la ville de Nice va avoir l'occasion de l'acheter. En 1925, on ouvre le premier grand musée des Beaux-Arts, qu'on va très vite appeler le musée Chéret. Les anciens niçois, ils connaîtront toujours, ils diront toujours le musée Chéret, alors que vous verrez, moi j'essaie de dire toujours musée des Beaux-Arts.
D'ailleurs, c'est marqué musée Chéret.
C'est marqué musée Chéret, parce qu'en fin de compte, on a une collection d'œuvres de Chéret. Alors, quelles sont nos grandes collections? On a une collection Chéret. Chéret meurt à Nice en 1932, la ville de Nice hérite tout. On a une collection de Carpeaux, vous avez encore un Carpeaux ici. Carpeaux était malade, il est venu se soigner sur la Côte d'Azur. Par testament, il va léguer beaucoup. On a une grande collection de Dufy, puisque Madame Dufy va nous léguer donc toute sa collection personnelle. Vous voulez suivre la visite commentée?
Non, non.
Ah, ça vous dirait? Ah, alors voilà, restez avec nous. Je venais juste de commencer, donc j'ai pas beaucoup. J'ai juste fait un tout petit rappel de l'histoire de la maison, construite pour une princesse russe, puis habitée par un très riche Américain, devenue musée des Beaux-Arts en 1925, et achetée par la ville à ce moment-là. On en était donc aux différentes collections principales, collection Chéret, qui lui donne son nom, collection Dufy, collection Carpeaux. Et depuis ces deux dernières années, on a eu la chance d'avoir deux dames qui nous ont donné leur collection. D'abord, Madame Agda Quaviva, et qui va nous donner des peintures flamandes du XVIIe siècle. Et pour les Journées du patrimoine, en septembre 1999, Madame Ethel Messia, nous a donné des œuvres. On a des petits signacs adorables, quatre beaux petits signacs, un manguin, Moïse Kisling, enfin des peintres célèbres, un peintre de Saint-Tropez, peintre de la couleur des années 20, des années 30. Alors ça fait qu'on a eu deux legs très importants il y a récemment. Alors je vais vous entraîner, on va faire un parcours un peu chronologique, mis à part le Moyen-Âge, je ne peux pas me présenter de la peinture de la galerie, donc ça vous devrez le regarder seul. On va commencer par le leg de Madame Adigor d'Aquaviva. Il y avait son nom qui m'échappait. Je voudrais que vous remarquiez le plafond. Dans cette villa, à l'origine, il y avait des plafonds peints. Et il y avait même, dans la galerie, des grandes peintures murales. C'était la grande mode à cette époque-là. On venait de découvrir Pompéi, donc on avait fait des fouilles, et c'était la mode des peintures murales à style mythologique. Et vous avez ici une Vénus entouré par des petits cupidons dans un plafond qu'on appelle, ça s'appelle des plafonds à ciel ouvert. Ça donne l'illusion d'ouvrir sur le ciel. Voilà. Alors je vous présente le leg ancien. Voilà. En 98, nous avons eu la chance d'avoir le leg de cette dame, Madame Adigor d'Aquaviva. Alors cette dame, elle est d'origine niçoise, mais elle ne vivait plus à Paris quand elle nous a fait ce... Elle ne vivait plus à Nice, elle vivait à Paris quand elle nous a fait ce leg. Et parmi les 20 toiles, les 20 peintures flamandes qu'elle nous donne du XVIIe siècle, vous avez ces deux œuvres majeures qui sont de Bruegel. Bruegel dit de velours, c'est le fils de Bruegel l'Ancien. C'est un peintre qui est connu beaucoup dans les histoires de l'art pour ses natures mortes et ses bouquets. Et là, il nous laisse deux magnifiques peintures sur chêne, peintures sur bois, représentant deux thèmes liés à la nature, la terre et l'eau. Et vous avez la richesse des détails, la richesse et le fouillis un peu de tous ces détails. Alors vous avez ces magnifiques fleurs ici sur les côtés, les fruits de la terre, plein de petits animaux, les petits singes sont très cocasses, les petits lapins qui s'enfuient ici, deux petits lapins qui s'enfuient. Enfin, il y a une très grande richesse de détails, d'éléments de la nature. Et ce qui est très beau aussi dans ces deux Google, enfin, dans ce Google-là particulièrement, c'est la composition. Vous avez ici une trouée, et là, une autre trouée, et ces deux trouées, elles vous donnent la profondeur au tableau. Par ces deux trouées lumineuses, le ciel, la ligne d'horizon, une petite scène de paysan, ici, le ciel, l'horizon, un château, va vous donner de la profondeur à ce paysage. Et en même temps, il mélange paysage et mythologie. Parce que vous avez la déesse de la nature, la déesse de la terre, Cérès, avec, regardez ce qu'elle porte, la corne d'abondance. La corne d'abondance avec des fleurs, avec des fruits. Voilà. Et c'est peint comme une enluminure, par la finesse des détails. Donc, finesse des détails, finesse des petits personnages à thème mythologique. Par exemple, là, vous avez un personnage comme un centaure ou un satyre avec des petites cornes. Donc, mélange du paysage et de la mythologie. Alors, ça, c'est pour la terre. Maintenant, on passe à l'autre pendant, l'eau. Encore une déesse, Amphitrite, la déesse de l'eau. Au loin, Neptune, les chevaux marins, les tritons, les sirènes. Une composition avec une ligne en diagonale. De ce côté-là, une lumière moins claire. Regardez, ce n'est pas du tout le même bleu. Vous voyez, quelque chose de plus bleu-gris, de plus atténué dans la tonalité du bleu. La ligne d'horizon, l'eau, le ciel. Et de ce côté-là, sur la terre, tous les éléments, tous les poissons, tous les canards, toutes les tortues, les coquillages, tout est sorti de l'eau, extrait. Hein, extrait de l'eau, et vous avez une très grande richesse. Alors là, aujourd'hui, vous avez un beau soleil, parce que celui-là, il est moins lumineux que l'autre. Et donc, vous avez notre frère. Je vais vous dire quelque chose. Je les vois depuis juin 98. Donc, ça fait quand même bien. Chaque fois que je descends, je découvre quelque chose de nouveau. Par exemple, cette petite loutre avec un poisson dans la gueule, mais je ne l'avais pas vue. Et je l'ai vue que depuis à peine quelques semaines. C'est un animal, je pense que c'est une loutre, hein, avec un poisson dans la gueule. Donc, chaque fois, vous voyez, parce qu'elle est grise. Bon, par contre, il y a des éléments colorés comme ce poisson rouge, comme ce poisson lune, bien sûr le poisson volant. Il y a des éléments qu'on voit tout de suite. Puis il y a des éléments, au contraire, qui sont plus cachés, plus difficilement détectables. Voilà. Hein. Et en fin de compte, alors, moi, je fais beaucoup de visites commentées avec des enfants. Par exemple, ils me disent toujours, c'est deux fois la même dame. Alors, c'est vrai que les deux déesses, quand vous regardez Amphitrite, le nu, le drapé, elles ont des points communs. Sauf qu'ici, par exemple, c'est du corail qu'elle va porter dans sa corne d'abondance. Alors que là-bas, ça sera des fruits. Et je termine par ça. Vous avez remarqué qu'il y a deux noms de peintres, Bruegel et Van Balen. Ça s'appelle une peinture à quatre mains. C'était la mode à cette époque-là. Deux peintres vont fonctionner sur la même toile, enfin sur la même œuvre. Alors on dit que, je dis bien on dit que, parce qu'on n'en est pas vraiment sûr, que Bruegel aurait fait tout l'élément végétaux, nature, feuillage, tout ça, et que Van Balen aurait fait les petits personnages qui sont là, et on appelle en peinture ça des glacis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un glacis ? Un glacis, c'est quand on mélange la peinture à l'huile est déjà mélangée avec un vernis. Vous savez, le vernis, il va être mis à l'extérieur, l'œuvre finie. Mais des fois, on peut mélanger ce vernis dans la peinture même, et ça donne des effets de brillance. Oh, regardez bien le corps. Regardez bien le corps du bambin ici. Regardez bien le corps. Ça donne du relief. Alors, ça va être fait, les glacis, pour des choses qu'on a envie de voir, visage, mains, vont être souvent faites en glacis. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il peut y avoir des parties plus claires qui peuvent être faites. Donc il rajoute quelques gouttes de vernis dans son mélange et ça donne, ça accentue le modelé des éléments. Voilà. Si vous avez des questions, ne me laissez pas parler toute seule pendant une heure. Donc essayez d'intervenir, de faire vos remarques. Oui, celui-là, il est super. Eh bien, il a été gardé. Pourtant, ils viennent de la même collection. La même collection de Madame Abigor. Alors, elle-même, elle avait hérité des tableaux de son père et de son grand-père. Parce qu'on sait que c'est des collectionneurs depuis au moins 3-4 générations. Hein, c'est elle qui nous l'a dit. Parce que mon conservateur, qui a eu ce legs, était ami avec elle. Avant, elle meurt en 94. On en hérite en 98. Si vous voulez mieux, mais mon conservateur la connaissait. Donc, c'est elle-même qui nous avait dit que c'était déjà dans la collection de son père. Celui-là, ce panneau de bois, a dû être gardé dans une pièce plus humide. Et il s'est déformé. Par contre, beaucoup de gens nous disent, nous sommes gênés par la vitre. Alors, je dis, nous avons été obligés de les vitrer parce qu'ils sont très fragiles. Si on ne le vitre pas, celui-là, le fait qu'il soit vitré, il va encore se déformer à plus. Le fait d'être vitré et d'être encadré va le maintenir, un peu comme dans une gaine. Là, il est un peu comme dans une gaine. Et c'est vrai que celui-là, il est en grand souffle. Ça se voit bien comme ça.
Ça se voit bien. C'est blanc, il n'est pas craqué ni rien, alors on pourrait s'attendre à ce que...
Et il a résisté. Là, on l'a traité. Quand on a eu le leg, il a été traité. Comme là aussi, il a été nettoyé. C'est pour ça que vous voyez le rouge, le blanc, le rose et lumineux, c'est parce que justement il a été traité. Mais traité, on ne peut pas parler de restauration, mais d'un nettoyage. Un nettoyage déjà assez important, mais un bon nettoyage. Voilà. Alors, par contre, les tableaux de Madame Avigor, je ne vais pas vous les commenter, ça, c'est les deux pièces maîtresses de ce leg. Elle nous a donné ça, 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 ça. Et le grand Blomer. Donc, je veux dire, c'est quand même l'aide de la peinture flamande du XVIIe siècle. Or, c'était notre point faible jusqu'à maintenant. Nous avions de la peinture italienne, nous avions de la peinture française du XVIIe, et nous n'avions pas de peinture flamande. On avait deux toiles. Alors voilà, la deuxième œuvre maîtresse de la collection de Madame Avigor, c'est ce très beau tableau de Blomert. Alors Blomert, il est très connu, et c'est un peintre flamand, mais qui a aussi travaillé en Italie. Parce qu'à cette époque-là, nous aujourd'hui, les peintres, on les classe, peintres italiens, peintres français, mais à cette époque-là, ils étaient des grands Européens, ils voyageaient beaucoup. Je n'allais pas dire qu'ils voyageaient plus que nous, mais ils voyageaient au moins autant que nous. Hein. Et donc ce peintre-là, eh bien, il a beaucoup regardé la peinture italienne et beaucoup été influencé par la peinture italienne et par le grand Caravaggio. Regardez l'homme, le béret, comment il le porte, la plume. Regardez la manière, le dos de l'homme. Ça, c'est tout à fait d'inspiration italienne du XVIIe siècle. Et par contre, si vous regardez la femme, alors après, lui s'appelle Médor, et elle, Angélique. C'est une grande scène d'amour, ils écrivent leur nom sur le tronc d'arbre. Donc, et la lumière est extrêmement flamande. Ici, cette tonalité de ciel, cette lumière un peu blafarde, c'est une lumière flamande. Par contre, elle est peinte comme les peintres de la Renaissance française de Fontainebleau, ce qu'on appelle la peinture maniériste, hein, des peintres de Fontainebleau, des peintres français ou italiens que François Ier a fait venir pour décorer les grands châteaux de la Loire. Et bien, elle, le nacré de la peau, regardez les perles qu'elle porte et regardez sa poitrine. C'est tout à fait le nacré des portraits de cette peinture de Fontainebleau de la fin du XVIe siècle. Fin XVIe, début XVIIe. Vous voyez donc, on voit un peintre énormément influencé par différentes sources. Et on peut dire aussi que c'est une peinture baroque. Regardez le très beau drapé baroque qui va ceinturer les hanches de Médor ou la très belle jupe plissée d'angélique. Ça, c'est typiquement baroque. Quand on parle d'une peinture baroque, c'est que souvent, il y a... le baroque, c'est très expressif. Le baroque, c'est très mouvant. Donc, le fait d'un plissé, le fait d'un drapé, c'est, de par son essence, de par sa ligne, de par le rapport des couleurs. Regardez ce jaune flamboyant, ce rouge éclatant. Ça, c'est typiquement baroque. Là aussi, c'est baroque. Mais pour d'autres raisons, vous verrez. Hein? Donc, on est tout à fait... Et le baroque, il est allé partout. Il est parti d'Italie, il est passé par la France, mais il est allé un peu partout. Voilà.